Place de la République à Paris, l'opération Nuit Debout a été évacuée par la police cette nuit, opération qui a eu lieu dans une vingtaine de villes en France et qui devrait se renouveler vendredi prochain. Le temps de ce samedi sera variable.
Et puis un autre mouvement est en train de naître, en tout cas sous une autre forme. Bonsoir Fanny Stenler, vous êtes place de la République à Paris.
Où allons-nous ? Où voulons-nous ? Où voulons-nous ? Autant saisir toutes les occasions, même quand elles sont fortuites ou qu'elles semblent anecdotiques. Parfois des occasions anecdotiques ont un pouvoir de révélation sans pareil.
Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. Pas question de baisser la garde, les opposants à la loi El Khomri veulent s'organiser dans la durée. À côté des syndicats qui appellent à de nouvelles journées d'action de la semaine prochaine, des militants de la société civile et notamment des étudiants appellent à des occupations à Paris et ailleurs, un défi de plus pour l'exécutif.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Transistor. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, puisque nous enregistrons en direct de la F01, objet de tous les débats depuis une semaine à l'ENS. Et c'est Rémi qui est à mes côtés pour animer avec moi cette émission. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Phénomène inattendu en effet que celui qui a lieu dans cette salle F001, puisque des élèves de l'école occupent la salle depuis le début de la semaine dernière, dans la continuité des différents mouvements contestataires suscités par la loi travail. Inattendu parce que c'est une grande première pour l'ENS de Lyon, où régnait jusqu'ici un apolitisme inflexible dont le mouvement fait tout à coup table rase. Bien sûr, cette occupation s'inscrit dans une mouvance plus globale, qui va même bien au-delà de la lutte contre la réforme du code du travail, car c'est à une révolution de toute la société que l'on aspire ici, non sans un certain idéalisme peut-être, mais avec fougue et dans la bonne humeur. Cela dit, la mobilisation prend également un ancrage local très fort, né d'une volonté d'appliquer à l'école l'idéal que l'on défend, et de résister à la tentation d'un repli sur notre citadelle ENS, pour ainsi dire. Positions qui ont évidemment mené la mobilisation à se heurter à l'administration de l'école. C'est donc dans un équilibre fragile que ces élèves se sont installés ici en F001, aménageant tant bien que mal une cuisine, quelques lits, une bibliothèque et un accès à la rue par une fenêtre à défaut de porte. Et tous les jours depuis la semaine dernière, on y discute, on y débat, souvent en compagnie d'invités, militants ou universitaires, et puis on y prend un bon temps éphémère, mais certainement d'autant plus agréable. Ce soir, Transistor part à la rencontre des occupants de la salle. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors peut-être une première question assez évidente, est-ce que vous pourriez revenir sur la chronologie de cette occupation, comment elle est née, comment elle a évolué?
Alors, l'occupation a commencé il y a 10 jours à peu près, enfin une semaine et un jour, du coup, et 2 jours. Comment elle est née? C'était à la suite des AG qui ont eu lieu à l'ENS, ça fait quoi, 2 mois maintenant? Ouais. 2 mois, ouais. Et à partir des AG, on a continué à parler entre nous, après les AG, du coup, dans des bars, etc. Et l'idée est née que, qu'une occupation, ça serait sympa, à la fois pour continuer la dynamique de groupe qu'on avait, mais aussi par rapport aux enjeux qu'il y a dans tout le reste du pays, et surtout par rapport à rentrer aux résidences qu'il y avait plus localement à côté d'ici. Et donc on a fait une commission occupation, on en a palabré pendant quoi, 3 semaines à peu près. Les gens étaient motivés, ils étaient motivés, et puis finalement ça s'est fait, donc voilà.
Un mouvement de longue haleine donc, qui aboutit en début de semaine dernière, et alors ensuite, bon, tout se précipite un petit peu, mais comment ça se passe?
Chacun avait déjà, au début, quand on a commencé, du coup, on avait déjà... Des gens en tête, des noms, et chacun du coup a contacté des personnes de son côté pour les faire venir la première semaine. Donc, par exemple, avec Maël, on a fait venir Sterdignac, on a fait venir Alimi. J'ai essayé de contacter Usul, le youtubeur aussi, mais bon, il répond jamais. Du coup, il a toujours pas répondu d'ailleurs depuis 2 semaines. Et donc, chacun a proposé ses trucs. C'est assez libre dans l'organisation. Là, par exemple, chacun peut rajouter sa plage thématique. Et sinon, d'un côté pratique, je suis pas tout le temps là, du coup, c'est peut-être pas moi qui dois mieux répondre à cette question. Peut-être plus là pour gérer les trucs.
C'est vrai que d'un côté plus pratique, y a des moments de... Enfin, faut qu'on dorme ici, puisqu'on occupe de manière permanente. Faut aussi qu'on fasse de la bouffe, parce qu'il y a plein de gens qui viennent nous rencontrer et qui ont envie de passer un bon moment. Le soir, il y a toujours des petites commissions qui vont dans des chambres de l'ENS ou qui essayent de faire des grandes salades dans la salle pour accueillir tout le monde. Donc ça demande une bonne organisation pour tenir sur la durée. Et c'est ça qui est difficile aussi, parce que vivre ensemble, ça demande de faire des efforts individuels au profit des idées, quoi. C'est juste mettre en place des conditions matérielles pour qu'on puisse... parler des difficultés d'ensemble.
Et donc tu parles des idées, de la vie en communauté. Donc je reviens un peu en arrière et pour parler un peu de la politique générale, et donc parce que du coup ce mouvement s'inscrit dans le mouvement des Nuits debout en réaction à la loi travail, à la loi El Khomri. Et du coup voilà, enfin comment vous définiriez un peu l'engagement qui est celui de l'occupation et plus largement celui de Nuit debout? Est-ce que vous vous inscrivez dedans? Est-ce que c'est un peu différent? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans un mouvement anti-loi travail? Ou est-ce que c'est plus général ou plus spécifique?
Alors, il y a beaucoup de questions du coup. Alors, effectivement, il y a un lien avec les Nuits debout, pour reprendre celui-là. Après, est-ce qu'on s'inscrit dans le mouvement Nuit debout? Ça paraît difficile, dans le sens où c'est ni les mêmes... Il y a eu des personnes je pense qu'on y a tous été à peu près à Lyon et à Paris, et donc on y a tous été, mais c'est ni le même mode de fonctionnement ni les mêmes objectifs. Il y a une continuité. Le but c'était de faire un peu exploser les initiatives partout pour créer le mouvement de surenchère de contestation. De surenchère, le mot est pas très bien choisi. Bon. d'accumulation de contestation. Et donc, par rapport à la loi travail, c'est très clairement le point de mire principal qu'on a, et c'est à partir de là que toutes les réflexions subsidiaires se développent sur qu'est-ce qui fait que la loi travail a pu passer, quelle idéologie la permet et la détermine, etc.
Et justement, en parlant d'idéologie, alors quelle forme d'idéologie il y a dans la salle? Parce que j'imagine que c'est quand même assez divers, mais il y a quand même un dénominateur commun à toute cette mobilisation.
Je pense qu'effectivement, il y a un dénominateur commun, mais ce que j'aimerais souligner, c'est la pluralité et l'accueil aussi qui existe dans cette salle. Moi, je suis totalement néophyte, je suis venu à la rencontre du mouvement par bouche à oreille, et je trouvais que justement, il y avait une diversité de points de vue et également un esprit d'accueil qui va à l'encontre de l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur d'un mouvement qui serait fermé, alors qu'au contraire, ce que j'ai compris, c'est que ce mouvement essayait de, au contraire, s'ouvrir vers l'extérieur, dénoncer une certaine fermeture de l'ENS et penser l'ouverture, donc moins une idéologie que des idéologies qui discutent de sorte à arriver à un consensus. Donc, en tout cas, c'est la façon...
Ouais, complètement. Le but, c'est de diversifier, d'ouvrir, etc. Et alors, pour le dénominateur commun, globalement, on s'inscrit, donc, comme je viens de dire, dans le mouvement de contestation. Donc, on a quand même, on pourrait quand même dire que le mouvement, globalement, est de gauche, entre guillemets. Voilà, faut pas non plus, c'est pas je vais pas croiser de réactionnaires ou d'extrémistes dans le coin, quoi. C'est pas. Oui, il y en a qui viennent pour critiquer parfois. Ouais.
Ouais. Mais et du coup, enfin, quand on discute ici, on discute de quel sujet? C'est quoi comme vision de la politique, comme vision du but à atteindre, pourquoi on se bat ici indépendamment de cette loi travail qui tout le monde est d'accord est un petit peu un prétexte aussi.
Alors, du coup, je commence. De quoi on parle alors du coup, en dehors des discussions du coup qui sont organisées ou qui sont toujours dans des cadres de discussion, par exemple quand il y a eu Sterdignac des économistes atterrés, c'était toujours l'optique d'une discussion sur les évolutions de la société depuis 30 ans, sur la loi du travail, sur les différentes évolutions au niveau du droit. Et alors en dehors de ces cadres-là, il y a des discussions qui sont très pratiques, les rapports avec l'administration, les rapports avec les autres élèves, la communication interne, externe, etc. Et sinon, au-delà de la loi travail, effectivement, faut bien dire qu'on n'est pas d'accord entre nous sur plein de trucs. Déjà, il y a des anards, des gens qui sont plutôt tendance communautariste, d'autres qui sont plutôt des véganes, des technophobes, des ludites, ils préfèrent qu'on dise.
Des quoi ?
Ludites, c'est un terme qui existe depuis la révolution industrielle. Et bref, du coup, il y a plein de mouvements différents et on parle de tout ce que les gens ont envie de ramener là-dedans, quoi.
Bah justement, tu parlais des rapports à l'administration et aux autres étudiants. C'est quoi les revendications plus spécifiques à l'ENS que j'ai lu dans les communiqués, le rapport à la bibliothèque, les jardins, le PC sécurité. C'est quoi les revendications qui sont propres à l'ENS ?
Alors, faut déjà dire que ces revendications, on les a présentées de façon un peu abrupte au tout début, ce qui nous a été rappelé longuement plusieurs fois, et elles sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fixé par avance, et on est en discussion avec le personnel et les professeurs pour essayer d'élargir et de prendre en compte les revendications de tout le monde. Alors celles qu'on avait, c'était celles qu'on pensait symptomatiques de ce qu'on critiquait en général, dans la politique en général, et qu'on retrouvait dans l'école, c'est-à-dire la fermeture. La fermeture donc à l'extérieur, le fait que l'ENS soit badgé, sécurisé, etc. Le fait qu'il y ait des ségrégations socio-spatiales, donc à la bibliothèque. C'était vraiment à chaque fois des revendications qui sont des miroirs de celles qu'on critiquait en général. Et donc après c'est ça va par exemple jusqu'à pour les ça va de ce que je viens de dire et en prenant en compte les revendications du personnel par exemple, ça va jusqu'aux critiques des processus de privatisation du personnel, etc.
Alors peut-être pour rester d'abord dans des revendications, on va dire, un petit peu plus abstraites. On entend dans l'ENS, et c'est quelque chose qui date d'avant, cette mobilisation, une envie de politiser l'ENS, une ENS qui serait complètement apolitique. Ça participe de quoi, ça ?
Oui, c'est quoi le constat déjà de cet apolitisme de l'ENS ? Il se manifeste, parce que du coup, un apolitisme se manifeste quand même. Et du coup, comment repolitiser ? Est-ce que c'est en introduisant du débat ou c'est comme en suivant le modèle d'autres grandes écoles, avoir des gens encartés, avoir des fédérations de partis dans les écoles ? Je pense pas que ce soit la solution, mais
non, oui, le but n'est pas que tout le monde s'inscrive dans un parti du tout. C'est pas du tout ça le but. Mais à l'ENS, c'est symptomatique de toute la société, mais on remarque que tout se dit, les associations doivent être apolitiques, ce qui est quand même quelque chose d'étonnant. Parce que l'apolitisme, moi je pense que ça n'existe pas, tout est dans la vie publique, et donc tout doit participer d'un mouvement de vie de politique. Je pense que sinon, juste deux secondes, l'apolitisme de l'ENS, moi... me heurte un petit peu, mais au fond c'est celui de toute la France qui est un problème. C'est l'apolitisme de toute notre société, le fait qu'aujourd'hui il y a des dirigeants qui à peu près plus personne ne vote presque et plus personne ne croit en nos politiques, ce qui est quelque chose de triste finalement. Ceux qui nous dirigent ne dirigent pas pour nous. Et c'est aussi parce que aujourd'hui on est dans un état d'apathie totale et la politique c'est quand même le désir de changer des choses comme la poésie. je pourrais citer une chose de Spinoza qui dit un état, je sais plus comment il le dit, mais une cité qui tient sur l'inertie de ses citoyens ne mérite pas le nom de cité, mais celui de solitude. Et ça, je pense que c'est très vrai. On vit dans un état de... On vivait avant les Nuits Debout, avant... Et je parle pour moi, en vrai, parce que beaucoup, peu de monde vit les Nuits Debout, en vérité. C'est un mouvement pas massifié encore. Et peu de monde aussi vit dans la F01, finalement. Et c'est triste, parce que je pense que c'est deux mouvements qui mériteraient de connaître une massification. Pour moi, on ne peut pas critiquer les Nuits. Je comprends bien que les Nuits Debout, il y a beaucoup de problèmes dans ce mouvement. C'est un mouvement qui peut énerver. Je connais beaucoup de gens qui sont énervés par ce mouvement, mais et beaucoup de politiques, par exemple, qui critiquent ce mouvement de Sarkozy, Copé, tout ça. Voilà, c'est pas étonnant. Mais au fond, c'est grave ça, parce que un vrai dirigeant dans un pays démocratique devrait louer une telle entreprise de ses citoyens qui est absolument merveilleuse. Des citoyens qui décident que la politique se fera le jour et la nuit entre citoyens, par la discussion, par la parole. L'émergence d'une parole est toujours une joie, moi je pense.
Et alors, et donc... si la politique c'est un désir, c'est une façon d'aller vers l'autre, c'est ce qui manque peut-être justement à un niveau plus global et finalement aussi à l'ENS, c'est une forme d'ouverture et c'est une deuxième revendication qui est assez forte, une volonté d'ouvrir l'ENS, c'est d'ouvrir notre petit cocon fermé à quelque chose, au reste du monde en fait.
Alors ouais, très clairement, et je voudrais juste revenir sur la question initiale du politique du coup. Faut bien voir que le but c'est pas du tout de nuire aux recherches scientifiques qui sont menées en disant voilà, tout va être politique, quand vous allez faire des mathématiques, il faut politiser ça, etc. C'est pas du tout le but. En revanche, le but c'est de bien voir que l'école en tant que lieu de formation des élites, etc., c'est un lieu qui est situé socialement, qui est politisé, et nier ce genre de situation, c'est une proposition qui est déjà politique en soi. Par exemple, il y avait Damasio qui était là tout à l'heure, critiquait la littérature blanche, celle qui littérature blanche, donc c'est littérature qui n'est pas une littérature de genre, thriller, etc. Et il la critiquait comme faussement apolitique, c'est-à-dire qu'elle présentait des modèles qui eux-mêmes n'étaient pas critiqués et qui en fait recrachaient le langage de l'idéologie dominante. Et c'est exactement ce genre de position là qu'on essaie de critiquer à l'école même. Voilà.
Oui, moi je ne crois pas à l'écriture blanche non plus. Je ne crois pas même au concept de neutre, ni à la tiédeur. Et là, je lis devant moi, je vois sur le mur, il y a écrit, je sais plus, c'est Gramsci, c'est de qui ? Qui dit « Je hais les indifférents ». Et ça, je pense que c'est vrai. Dieu disait « Je vomis les tièdes ». C'est à peu près la même chose. Bien sûr, être indifférent, c'est soutenir un ordre établi, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça.
Et est-ce que ça rentre pas, est-ce que en discutant avec des personnes plus âgées, notamment des anciens profs, il y a une sorte de regret parce que du coup enfin ces gens-là ont connu notamment l'ENS d'Ulm très politisé avec des grandes figures marquées à gauche qui n'existent plus et qui ne sont plus ni à Ulm ni à Lyon. Est-ce qu'il y a aussi ce genre de regret de ne pas avoir des personnalités très très fortes et très politiquement qui incarneraient une sorte d'idéal
Je réponds à cette question 2 secondes. On a quelques figures d'ailleurs intellectuelles, par exemple Frédéric Lordon et tout ça. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique de cette ère des intellectuels, des grands intellectuels. Je ne pense pas que Sartre ait été une parole française merveilleuse et qu'il ait fait que du bien. Je pense que l'important dans ce mouvement, c'est justement qu'il y ait peut-être, même si on aura peut-être besoin finalement de personnes qui ont une parole plus marquante, qui une pensée plus construite peut-être, je pense que l'important dans ce mouvement, c'est surtout que tout le monde aujourd'hui prenne la politique et que c'est un mouvement global de politisation de la vie. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça, je pense.
Prendre conscience que chaque acte, si quotidien soit-il, a des conséquences et un impact aussi bien sur ta propre vie que sur celle des autres. C'est avant tout, enfin moi en tant que moi-même, je ressens l'occupation avant tout comme un lieu de révélation de beaucoup de choses. Grâce, c'est une semaine de révélation pour moi, de révélation de moi-même aux autres. Et
tu pourrais dire conversion.
Non, pas conversion. Je pense que j'étais un terreau fertile, donc c'est pas une conversion, c'est pas une épiphanie, mais je rencontre beaucoup de gens et un cadre propice à une maturation d'une pensée qui existait déjà parmi nous et au fur et à mesure qu'on en discute tous ensemble de tous les sujets possibles et inimaginables, il y a quelque chose qui grandit en nous et je pense pas qu'il soit nécessaire d'imaginer une grosse action. Enfin voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de la semaine, le mythe du grand soir, il faut l'oublier. Mais rien que le fait de se rencontrer et de grandir ensemble, je trouve ça très important.
Donc là, on va faire une toute petite pause musicale et on revient tout de suite.
Voilà une reprise du Déserteur de Boris Vian par Giovanni Mirabassi qu'on entendait à l'instant. Alors, on parlait justement de l'application des idées que vous défendez, de leur application au cadre bien précis de l'école. Cette mise en application a forcément été l'occasion de quelques heures avec l'administration. Alors, quelle est justement la position de l'occupation par rapport à l'administration et comment se déroule le contact qui a beaucoup évolué?
Alors, avec l'administration, c'est vrai qu'on a eu... Enfin, après, personnellement, je pense que la... Enfin, tout ce qui s'est passé avec l'administration, ça a été beaucoup amplifié. Et moi, personnellement, j'ai senti beaucoup plus de heurts avec d'autres élèves dans l'établissement que par rapport à l'administration en soi. Et je considère qu'il y a eu beaucoup cette espèce de... Enfin, qu'on a brandi un peu l'administration comme une menace, mais finalement, on a bien vu que pour l'instant, on n'a pas eu tant de soucis que ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu, pas mal d'événements qui se sont passés cette semaine. Il y a eu beaucoup de réunions avec les associations parce qu'il y a eu, il y a eu une semaine assez chargée au niveau de Enseigne, qui est l'association culturelle de l'école, avec aussi la Garden qui était organisée. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de conflits par rapport à ça parce qu'ils avaient peur que ça gêne, dans cette organisation-là. Après, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose.
Juste pour rappeler les faits, nous avons pour la première fois été convoqués par l'administration vendredi matin, donc il y a quelques jours, après presque une semaine d'occupation où c'était silence radio. L'administration est venue nous chercher le matin pour demander un rendez-vous. Et ça a duré une quinzaine de minutes puisque Monsieur Pinton, le président, a commencé par dire qu'il n'y avait pas lieu pour un débat et qu'il voulait simplement nous demander de quitter la salle en nous disant que si on refusait de quitter la salle, donc d'arrêter l'occupation, la suite allait être décidée par la préfecture. Il nous a donné aucune précision, on ne savait pas quelles étaient les conséquences, mais bon, quand on parle de préfecture, la police n'est jamais loin, peu importe sous quelle forme elle intervient. Donc ça a été le premier échange avec l'administration. Le lendemain, samedi après-midi, comme Monsieur Pinton était là pour la garden party, qu'il allait se balader dans les jardins, on nous a fait passer le message à travers différents élèves, différentes personnes de l'administration, que Monsieur Pinton voulait nous rencontrer de manière plus détendue et informelle pour nous écouter et discuter. Il y a donc une délégation qui a été constituée samedi après-midi pour parler avec le président. Et il nous a pas appris grand-chose de plus que la veille, c'est-à-dire que il voulait qu'on parte et que on allait devoir faire face à la préfecture. Mais depuis, on n'a pas plus d'informations. Mais ce qui était intéressant samedi après-midi, c'était de voir que Monsieur Pinton nous disait que on se faisait du mal, que on faisait du mal à l'école et aux autres étudiants. Et que si on avait des intentions de créer du débat, de mobiliser les étudiants contre la loi de travail ou pour une remise en question de la neutralité politique à l'ENS, peu importe nos revendications, on s'y prenait mal. Et donc ça a posé problème puisque on a dû accepter le fait que nous n'étions tout simplement absolument pas d'accord. Et que la proposition qui était faite par l'expérience de l'occupation était radicalement autre et sortait du cadre proposé par l'administration.
Je veux juste rebondir, Léa. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait plus de heurts avec des élèves qu'avec l'administration. C'était par rapport à quoi?
Après, c'est un ressenti vraiment personnel. Ouais, je m'exprime vraiment d'accord. En mon nom. Mais c'est vrai que j'ai plus eu l'occasion finalement de discuter avec des élèves qui m'ont opposé des arguments contre l'occupation que par exemple avec des membres de l'administration ou même des profs qui finalement, du côté des profs, j'ai reçu beaucoup de soutien quand ils m'ont posé des questions et tout ça. Alors qu'au niveau des élèves, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas forcément à la salle. Pas parce qu'elles sont forcément opposées à certaines idées qu'on défend, mais... aussi parce que après il y a aussi de la mésinformation, il y a des gens qui ont pas forcément lu les manifestes tout ça, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient pas, enfin qui se sont opposés à l'occupation, quoi.
Je dirais pas des heurts mais des incompréhensions peut-être.
D'accord. Et justement, alors je vous ai sans doute discuté de cet article qui est sorti dans La Tartinière et c'est une réaction d'élèves et alors ça vient de Mono et c'est quelque chose d'assez significatif aussi parce qu'on a la sensation qu'il y a toujours un petit peu une disparité entre Mono et Descartes d'un point de vue politique, ce qui est dommage, je suis le premier à le dire. Un article qui assez long qui s'oppose à la mobilisation. Oui, voilà, on cite un certain nombre de solutions qui pourraient exister. Alors, si on veut faire du débat politique, il y a le collectif réflexe qui s'est monté il y a quelque temps. L'administration de l'école aurait toujours été ouverte aux propositions des élèves via les élus étudiants, les voies institutionnelles. Et l'article ponctue par la phrase suivante, les solutions sont là, mais ont été largement ignorées par orgueil ou impatience. Et alors, comment vous réagissez face à ça? C'est-à-dire que quand on vous dit que finalement il y a des solutions, quelle est votre réponse à ce genre de discours?
Mais je pense que une première remarque qui est en fait radicale, c'est que nous mettons en question ce système de représentation et ces institutions mêmes. Donc frontalement, ça pose problème. On critique pas forcément les solutions, mais la manière dont ces solutions sont avancées dans un dialogue prétendument bienveillant et tacite avec l'administration, alors que de fait il y a un manque de transparence, un manque de concertation. Et ça, c'est pas seulement les étudiants qui disent ça, c'est même les professeurs et d'autres personnes de l'administration qui critiquent le manque de transparence de la direction.
Mais alors, est-ce que vous avez des exemples finalement concernant ce
manque
de transparence ? Eh
bien, il y a des professeurs qui sont à propos de la il y a donc la salle d'exposition à côté de l'accueil qui apparemment va être remplacée par une extension du poste de sécurité. et des professeurs qui sont en contact proche avec la direction ont été prévenus seulement une fois que la décision a été prise. Donc ça montre bien qu'il y a un manque d'information. Et puis ensuite, pour revenir sur la question de la tartine, la différence avec Mono, si nous n'avons pas voulu écrire dans la tartine dès le commencement de l'occupation, c'est parce que on nous a découragé de le faire. On nous a dit la tartine est apolitique. Vous n'avez pas à faire un message de ce type à propos de l'occupation. On voit bien que l'apolitisme s'arrange comme il veut, puisqu'il y a seulement le droit d'une critique et pas d'une présentation de ce qu'on fait. Et pour continuer sur le faux débat Mono-Descartes, il y a plein de personnes qui sont scientifiques et qui viennent ici parce que ça les intéresse ou parce qu'ils nous soutiennent. Et nous, on va faire des AG à Mono. C'est encore une fois un discours de l'extérieur, un discours posé par des élèves qui ne savent pas ce qui se passe ou par l'administration, tout ça pour nous diviser en interne et empêcher la mobilisation générale.
Oui, et je voulais savoir comment vous réagissez à un paragraphe de l'article.
On a peu réagi à cet article.
Voilà. Ce qui est dit, c'est la démocratie et la vie en société nécessitent un certain niveau de responsabilité pour fonctionner correctement. Force est de constater que ce niveau n'est pas toujours respecté par les occupants de la F01. Cette occupation s'accompagne en effet d'une dégradation des locaux. De multiples tags liés peuvent être trouvés dans les toilettes proches de la salle ainsi que sur les murs de l'école.
C'est très grave, ouais.
Le lien logique m'a été confirmé à titre personnel par des réguliers de la salle, non sans une pointe de fierté. Et attendez, là c'est la pointe qui vaut son pesant de cacahuètes. On fume aussi à l'intérieur de la salle et de tout.
Et de tout. Non, bien sûr.
Ils sont de la bonne et ils sont trop jaloux.
Non, bien sûr, ce passage est peut-être le plus drôle de l'article. Moi, c'est le seul passage d'ailleurs qu'on m'avait lu. Et je trouve ça très drôle. Bien sûr, on est ici. Enfin, ils nous taxent d'irresponsables. Je pense qu'on peut le prendre comme un compliment. Je ne sais pas.
Mais après, c'est une technique, beaucoup plus répandue de décrédibilisation, de dire que ces gens-là, c'est toujours on retrouve toujours le truc civilisé barbare. Finalement, les gens qui sont là, qu'on essaie de critiquer, on les présente comme des barbares, comme des gens qui vivent salement et tout. Enfin, il y a rien de très surprenant finalement dans leur manière d'attaquer la chose.
Hein. Oui, l'argument d'immaturité. Casse à peu près toute réponse, mais en vérité, être immature, être enfant, c'est aussi une manière d'être au monde, et c'est peut-être... si on est ici, moi je pense que la politique est une jeunesse, est une enfance de la pensée, et c'est désirer et vouloir que nos désirs se concrétisent. Et bien sûr, si on est ici, c'est par une certaine irresponsabilité. Mais qu'est-ce que c'est la responsabilité après? On est responsable devant qui et pour qui? Moi, je pense qu'on est responsable en tant que citoyen. On n'est pas responsable devant une institution qui veut nous faire taire ou qui nous empêche de penser même sans le vouloir, mais en nous rendant apathiques. voilà, je. Ouais.
Alors,
bien sûr, une chose.
Ma gueule.
Contre l'argument, on aurait dû passer par les moyens habituels, voir les élus étudiants qui sont élus à 13% des élèves dans l'école, tout ça. Bien sûr que je leur réponds que l'occupation, c'est autre chose que ça. C'est pas simplement, on a quelques revendications pour l'école et on veut que l'administration soit d'accord avec nous. C'est autre chose que ça. Déjà, l'occupation est à comprendre dans un cadre beaucoup plus grand. Donc c'est la France entière aujourd'hui qui devrait occuper. La France entière essaie d'occuper des lieux, mais c'est tout qu'il faut bloquer aujourd'hui. Et en occupant, on se bat donc pour quelque chose de plus grand. Et après, l'occupation en elle-même, en sa réalisation, est un succès. Vaut dans le fait même qu'elle est. Maintenant qu'on vous parle, nous gagnons. C'est ça que je veux dire. Non, mais parce que de vivre ensemble, de vivre politiquement, et après, peut-être on ne fait pas que de la politique ici. On dort, on fait des soirées pyjama, on fait plein de choses.
Alors justement, on y reviendra, mais ouais, pour l'instant, Léa avait...
Je voulais juste rajouter un truc depuis tout à l'heure sur les gens qui disent oui, les collectifs réflexes, tout ce qui a été mis en place, ça peut être aussi une voie de politiser les gens et tout. En fait, enfin, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'avec la salle, on peut faire énormément plus de choses en des temps beaucoup plus courts. Enfin, là, en quelques jours, on a eu des tonnes de conférences, de projections et des trucs qui se font un peu à la dernière minute aussi. Et ça, c'est juste pas possible avec ce genre de voie institutionnelle où, enfin, il faut s'y prendre à l'avance, faut déposer un truc à l'administration, etc. Donc.
Et en plus, à propos du collectif réflexe, il a eu beaucoup de mal à être lancé. L'administration, plus précisément la vice-présidente, a mis des bâtons dans les roues lors de l'élaboration.
Ce qui est d'ailleurs mentionné dans l'article.
Oui.
À titre de.
Oui, oui, et c'est très juste parce que apparemment la vice-présidente refusait que le collectif réflexe soit un collectif ouvertement politique qui pose des questions d'actualité politique. Et rien que ça, c'est la réaction de la vice-présidente, c'est symptomatique de l'état des choses actuelles à propos de cette neutralité politique que nous cherchons à critiquer.
D'accord, alors on va peut-être raccrocher un petit peu les wagons. On revient justement sur cette neutralité politique qu'on avait évoquée au début, mais de façon beaucoup plus concrète et indépendamment d'idées peut-être plus abstraites de repolitisation d'école et d'ouverture de l'école. Vous avez aussi mené des actions, disons, de terrain, des actions beaucoup plus concrètes auprès, en particulier, des différents personnels de l'école, je crois.
Oui, on a organisé la semaine dernière plusieurs petits déjeuners dans le hall Descartes et dans le hall Monod afin d'établir un contact tout à fait sympathique et convivial avec toutes les personnes qui travaillent à l'ENS. Ces personnes, c'est les enseignants, c'est les gens de l'accueil, ce sont les agents d'entretien, ce sont les agents de la sécurité, ce sont les élèves aussi. Et ça nous a donné l'occasion de rencontrer vraiment tous les types de personnes qui vivent avec nous au quotidien. Et par ailleurs, on est aussi allé à la rencontre des travailleurs de l'ENS dans leur cadre de travail, aux rues de Monod, aux rues de Descartes, dans les couloirs. On a plusieurs. Enfin, c'est arrivé régulièrement et c'est ça l'avantage d'avoir une salle par rapport au fait d'être juste là ponctuellement dans un lieu. C'est qu'il y a des gens qui passent, qui viennent nous poser des questions, parfois des heures avancées de la nuit. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de rester tout le temps et de ne pas être là à des heures précises. C'est parce que parfois, à 22h, on a des agents de la sécurité qui peuvent venir échanger un mot avec nous. Et ça, ça fait vraiment partie des plus belles expériences de l'occupation, en fait. Et des choses qui font la différence dans cette occupation par rapport à d'autres types d'actions qu'on aurait pu mettre en place, des associations, des collectifs, etc.
Très bien. Et donc, c'est avec une deuxième pause musicale, juste avant la dernière partie de l'audio direct dans la F01. Donc, une petite pause musicale.
Mon collègue, pour laisser faire et se croiser les bras. Réveille-toi, il faut que tu boulègues, sinon les autres choisiront pour toi. Moi je m'en vais bouger avec la tchoume, moi je m'en vais pour donner de la voix. Section Raouf, tu vois de quoi il retourne. Section Raouf, c'est Royer Liberta. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassembler pour avancer. Sans baisser les bras, et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra.
Ouais.
Les grands messieurs nous prennent pour des caves. Dans leurs histoires, on n'est jamais marqué. Souvent je me dis, putain, on est trop grave. Un de ces quatre, il faudra répliquer. Depuis l'empèbre, c'est qu'on nous gruge. Ils nous endorment avec leurs beaux progrès. C'est le bilan, ce soir c'est moi qui juge. Il va falloir tous me les dégager. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassembler. Pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. On dit que la section de Védas un jour a fumé un sous-préfet pour que ça soit un peu moins dégueulasse. Dans le pastis, ils l'ont fait mal.
Et voilà, les Massilia Sound System sur Transistor. Alors, on parlait juste avant la pause musicale, donc, de ces actions que vous avez menées auprès des personnels de l'ENS, d'aller discuter avec eux. Qu'est-ce qu'il en ressort, finalement?
C'est des moments d'échange tout à fait spontanés. Donc, du coup, enfin, c'est pas comme si on était arrivé avec une liste de questions à leur poser ou des choses comme ça. L'idée, c'est plus de créer du lien, parce que l'idée de l'occupation, c'est que, en fait, la politique, ça passe par le fait de créer du lien entre les gens. Et c'est pas toujours dans l'idée d'avoir un message ou des revendications claires, c'est juste simplement le fait de faire des choses ensemble et de se rencontrer et de briser la division qui règne entre les individus, c'est déjà en soi un acte politique. Et du coup, c'est ça qu'on a fait avant tout. Enfin, on a eu des discussions politiques avec les gens qu'on a rencontrés. On a parlé de la loi travail, on a parlé de leurs conditions de travail. Ça a été assez éclairant d'ailleurs quant aux conditions de travail de l'ENS, des travailleurs de l'ENS. Mais avant tout, on a rencontré des gens et ça, c'est plus important en fait.
Donc il y a aussi donc des rencontres d'un autre type, plus intellectuelles. Et alors comment ça s'organise les débats qui se font autour qui choisit les thématiques, comment ça se passe, qui invite?
Ça se fait de manière assez spontanée, je crois. Tous dans nos disciplines, on a l'occasion de croiser des noms d'intellectuels dont on sait que leur discours pourrait intéresser le mouvement de l'occupation. Donc du coup, chacun est libre de prendre des contacts et on a fait venir comme ça pas mal de personnes. C'est à l'initiative de chacun.
Et les gens, ceux que vous avez contactés, la majeure partie des gens que vous avez contactés répondent positivement ou
Comme j'ai invité des gens. alors globalement, ouais, les réponses sont positives. Et au niveau de l'organisation des débats, généralement, on leur laisse plus ou moins le champ libre sur ce qu'ils veulent traiter. Le seul requisite, c'est qu'il faut que ça soit pas une parole qui vienne d'en haut et qui soit purement professorale. Le but est principalement d'avoir des discussions et à chaque fois, je crois que les plus longues interventions qu'on avait, c'était 30 minutes maximum.
Deuxième réquisite, c'est de prendre acte du fait qu'ils parlent dans un contexte d'occupation qui est illégal et qui s'inscrit dans la mobilisation nationale de la loi de travail. Donc c'est pas, encore une fois, une parole professorale, mais c'est bien une parole de soutien ou de militants ou de personnes qui se posent des questions dans la société dans laquelle ils vivent. Et encore une fois, dans un contexte d'occupation, une salle où les gens dorment et vivent et parlent pour la politique.
Alors, de quoi on parle? Qu'est-ce que vous avez comme exemple, par exemple? Qu'est-ce qui se dit dans cette salle? Il y en a tellement qu'on sait pas quoi.
Ouais, non, vas-y. Il se dit tout. On a parlé de sociologie du travail, on a parlé du rôle des médias dans la fabrication du consentement et du consensus. On a parlé, d'économie avec Henri Sterdignac, on a parlé géographie et anarchie. Là, tout à l'heure, on parlait science-fiction et création d'un imaginaire de la contestation et de la révolution. C'est assez libre. Puis les interventions, c'est intéressant aussi parce que même le public, tout à l'heure, on a fait un sondage pour savoir qui venait de quelle section, étudiait quoi, et il y a de tout. Ça va du cinéma à la physique, alors en passant par la philo, les sciences sociales, etc. Donc même les interventions sont vachement variées. Il y a à peu près tous les niveaux, à peu près toutes les spécialités. Donc ça nourrit la chose, quoi.
Puis c'est de plus en plus diversifié. C'est pour ça que c'est chouette de voir que ça peut continuer encore une ou deux semaines de plus. On est parti la semaine dernière beaucoup donc de la question du travail, des conditions de travail. On a vu des documentaires là-dessus. Nos questions étaient assez axées là-dessus, les interventions, etc. Et puis de la fin de la semaine dernière au début de cette semaine, on voit que ça s'ouvre. On a parlé de racisme hier. On a parlé de la culture de l'excuse en sociologie. On a parlé Damasio et les autres auteurs de science-fiction, on s'est ouvert vers une perspective littéraire. C'était très très riche en fait, et on parle d'écologie vendredi. Donc ça s'ouvre petit à petit. Qui sait de quoi on parlera la semaine encore d'après, si on peut rester.
Et c'est quoi les rapports avec les générations d'avant, des gens qui des générations en termes d'âge en fait? Des personnes qui ont l'âge de nos parents, par exemple, quel regard ils ont là-dessus?
Les intervenants ou les gens que vous rencontrez, parce qu'il y a quand même une coupure générationnelle assez importante dans le mouvement. De fait, on est des élèves. Et...
Il y a un truc qui est le cas un peu à chaque fois, c'est que toutes les personnes qui interviennent ont derrière eux aussi un passé de contestation et ont aussi participé à des mouvements. Il y a toujours quelque chose de la bienveillance face à des étudiants qui face à des étudiants dans lesquels ils se reconnaissent un peu. Et après, c'est assez divers, quoi. Ça va de ceux qui ont l'impression d'avoir beaucoup plus vécu que nous et qui aiment bien nous donner quelques leçons, même sur le ton, vraiment le ton du conseil, très gentil. Et puis il y a ceux qui ont l'air de préférer notre génération à la leur. Donc, c'est. Ouais, non, tout à fait.
Après, nous, on essaye justement de s'ouvrir vers d'autres générations. On essaye de faire venir au maximum nos professeurs et les travailleurs de l'ENS. Et après, c'est pas forcément facile. Effectivement, il y a pour l'instant encore une coupure générationnelle, mais qui peut être très fertile en fait dans la discussion. Et nous, c'est ça qu'on cherche.
Et justement, en termes de fertilité, alors j'oserais pas parler de rentabilité intellectuelle. Je crois que c'est pas forcément un vieux.
C'est pas le terme.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a vraiment une viabilité du discours ici? Parce que c'est aussi la vision que certains peuvent avoir de ce qui s'y passe, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent, qui discutent, et puis c'est bien joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ce discours ici, est-ce qu'il construit? Et qu'est-ce qu'il construit?
Il y a beaucoup d'interrogations sur... On en parlait complètement tout à l'heure sur comment mener la contestation, par exemple. Il y a des interrogations qui vont être un peu métaphysiques, il y en a qui sont beaucoup plus pratiques. Là, on parlait de la science-fiction, de la création d'un imaginaire, finalement, associer la contestation, la subversion à des affects joyeux, quoi. Donc, t'as la question, on a abordé tout à l'heure la question de la violence, de savoir comment se tenir. Faut-il aller vers la violence physique? Faut-il la rejeter? Ça peut paraître abstrait, c'est de la discussion, mais ça justement, le point commun d'à peu près tout ce qui se dit, je crois que c'est de viser une certaine concrétisation. Et en fait, le simple fait de discuter ici dans cette salle, c'est déjà faire quelque chose en fait.
Et de vivre ici dans cette salle, c'est aussi une idée selon laquelle. On essaye de penser la politique et de construire la politique en même temps qu'on la pense, à la fois par le discours et par nos actions. Et je dirais que nos sujets de discussion, ils se situent un peu sur deux terrains. Il y a un terrain assez intellectuel de qu'est-ce qu'on conteste, pourquoi on le conteste et pourquoi en deux mots, pour construire quoi derrière. Et de manière très pratique, il y a demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une manifestation. On est beaucoup sortis, on est beaucoup allés faire des actions à Lyon, à Villeurbanne, dans le cadre des Nuits debout, dans le cadre de manifestations contre la loi travail. Et donc il y a un peu les deux choses qui se construisent en fait, le présent avec les actions et le futur proche, on espère, vers une société qui serait qui répondrait plus à nos vœux.
Pour revenir sur les actions concrètes qui ont été déployées à partir de l'occupation, il y a eu mardi après-midi un petit groupe de personnes qui est allé à la manifestation appelée par les syndicats à Villeurbanne contre les violences policières. Il y a eu un autre groupe de personnes qui est allé mardi soir à l'AG Interlutte organisé par La Nuit Debout. Chaque jour... Et la semaine dernière, le matin de la manifestation, jeudi dernier, il y a eu un groupe de personnes qui est allé aider les lycéens et étudiants pour tenir les blocus qu'ils avaient organisés dans leur lycée. Donc, encore des preuves qui montrent que l'occupation de la F01 et les gens qui sont en F01 ne sont pas centrés sur leur nombril ou... fermé à des revendications internes, mais que c'est bien un moyen d'organisation à l'échelle locale et globale.
Et pour terminer là-dessus aussi, l'éducation politique qui se fait à travers ces discussions, à travers ces rencontres, ce sera peut-être même beaucoup plus pérenne que n'importe quoi d'autre qu'on pourrait faire en fait. Ça, c'est quelque chose, je ne vais pas pousser le lyrisme jusqu'à dire que ça va nous suivre toute notre vie, mais enfin... Il y a quelque chose de ça aussi quand même, de ça donnera d'autres choses et sera peut-être même encore plus pérenne que simplement sortir faire une manif un jour quoi. Donc c'est faire des choses.
Oui, parce que c'est un reproche qui a été fait, je crois, par le sociologue Geoffroy de la Seigneurie dans un article dans Le Monde, qui disait que, par exemple, par rapport au mouvement Nuit Debout, que c'était un mouvement qui était quand même resté très dans Paris intramuros, sociologiquement très très homogène. Et par exemple, le mouvement qui avait été fait notamment à Marseille de délocaliser la Nuit Debout en banlieue et qui avait été très mal accueilli en banlieue. Et voilà, il y avait une sorte d'entre-soi un peu confortable. Et je pense pas que ce soit la volonté de faire ça ici, mais du coup comment on s'exporte, comment on se déplace et on reste pas juste dans la F01 et on va voir ailleurs.
Ben nous pour l'instant ce qu'on a fait c'était justement en relation avec les intervenants qu'on a eu. Par exemple on a accueilli un collectif d'étudiants sans papiers qui est assez actif sur Lyon depuis 1 ou 2 ans et enfin on répond à leurs sollicitations parce que eux, enfin, ils répondent, enfin, on les fait venir en fait, mais on est aussi là pour les aider, donc leur proposer, voilà, nos bonnes volontés, nos mains, nos têtes pour essayer d'aller dans leur sens. Et eux, ils mènent des actions et ils savent mieux ce dont ils ont besoin. Et de même, on a rencontré un collectif hier qui fédère la contestation face à la rénovation urbaine à Vaux-en-Velin, qui nous ont invités à faire un espèce de jour debout. Demain à Vaux-en-Velin, paraît dans une optique un peu de délocaliser Nuit Debout en banlieue, c'est cette idée-là, et qui eux donc sont du terrain en fait et qui donc nous invitent, et donc c'est comme ça qu'on fait le lien en fait avec l'extérieur, par les gens qu'on rencontre.
Et finalement, parce que là, j'entendais là dans les dernières interventions le mouvement de dire voilà qu'est-ce qu'on fera après. Est-ce qu'on va durer? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de l'occupation? Est-ce que vous savez si elle pourra se continuer?
Parce que nécessairement, c'est un mouvement qui est voué à être éphémère. Et comment vous parviendrez in fine à
rentabiliser?
Justement à essayer de faire perdurer quelque chose de cet éphémère.
Je sais pas, ça dépend ce que t'appelles perdurer en fait, parce que justement ce qui est intéressant dans ce genre de mouvement, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est éphémère et ça arrive un peu comme un coup de poing, et finalement c'est pas plus mal que ça s'éternise pas, parce que ça finirait par rentrer dans une routine, etc. C'est une des citations préférées de Damasio, mais enfin c'est René Char qui écrit Être du bon, jamais du festin, son épilogue, il y a quelque chose de ça aussi, quoi, que s'il y a un moment, si dans 3 mois on a gardé le contrôle de la salle et que on s'est vraiment installé, ce sera plus pareil non plus, parce qu'on commencera à être accepté, à s'inscrire dans l'environnement, dans le cadre, etc. Donc c'est pas le but. Alors après, est-ce que la pérennisation, je sais pas à quel niveau elle va se jouer, peut-être parce qu'on va simplement rester nous en contact, qu'on va relancer quelque chose, qu'on va réinventer, peut-être.
Parce qu'il y a toujours le risque de la stérilité, le risque de se reposer, le risque que ça ait juste été un dégagement d'énergie, une forme de soupape, et que finalement...
Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler que donc nous, avec les vacances, etc., enfin, c'est sûr que les gens vont partir et que c'est le mouvement de l'occupation de la F01, il est très éphémère. Par contre, ce qui se passe en France en ce moment, c'est personne ne sait jusqu'où ça va aller. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être éphémère et on s'inscrit vraiment dans ce cadre-là de mobilisation partout en France. Et donc ça peut durer quelques semaines comme ça peut durer des mois. On ne sait pas où ça nous mène. Et par ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire.
Bah, un dernier mot, peut-être que c'est ça que tu voulais dire, mais en tout cas, moi c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de manière très claire la constitution d'un tissu collectif, non seulement avec les gens qui occupent la salle et les personnes qui passent dans la salle lors des interventions, mais surtout avec les différents pôles de mobilisation qui constituent la vie quotidienne de l'ENS et du quartier. Que ça soit les salariés, les professeurs, les étudiants, les représentants des élus, les associations, tout ce monde-là se rend compte pas seulement grâce à nous, mais on est avec l'occupation un moyen d'échange et de rencontre physique, pas seulement par mail, pas seulement par message interposé. Et ça, c'est hyper important pour la vie de l'école et pour la pérennité de la politique à l'ENS, que ça se passe par des revendications précises ou simplement par une conscientisation, j'aime pas trop ce mot, des problèmes et des enjeux qui sont les nôtres.
D'accord, et eh bien ce sera le mot de la fin. Un très grand merci à toi Mathias pour m'avoir accompagné à l'animation de cette table ronde. Un immense merci également à tous les occupants qui nous ont reçus et ont répondu à nos questions. Et puis vous pourrez également retrouver dans notre reportage Hors les murs d'avril dernier 10 minutes d'immersion dans la nuit debout à Marseille, c'est sur transistor.fr. A très bientôt, à notre écoute.
Bien sûr, si on est ici, c'est par une certaine irresponsabilité, mais qu'est-ce que c'est la responsabilité après ? On est responsable devant qui et pour qui ? Moi je pense qu'on est responsable en tant que citoyen, on n'est pas responsable devant une institution qui veut nous faire taire.
Je ressens l'occupation avant tout comme un lieu de révélation de beaucoup de choses. C'est une semaine de révélation pour moi, de révélation de moi-même aux autres.
Et pour terminer là-dessus aussi, l'éducation politique qui se fait à travers ces discussions, à travers ces rencontres, ce sera peut-être même beaucoup plus pérenne que n'importe quoi d'autre qu'on pourrait faire. En fait. Enfin, c'est quelque chose, je ne vais pas pousser le lyrisme jusqu'à dire ça va nous suivre toute notre vie, mais enfin, il y a quelque chose de ça aussi quand même. Ça donnera d'autres choses.